Table ovale sans ellipse, table ovale sans ellipse depuis Rodez, animé par Claude Devezin, avec autour de lui Christian-Emmanuel Gros pour le Modem, Jean-Albert Bessière pour le Parti communiste français, Jean-François Théron pour le Nouveau Centre, Mehdi Smaïn pour l'Union pour un mouvement populaire, Sarah Vidal pour le Parti socialiste et Jean-Louis Roussel pour le Parti de gauche. Jean-Louis Roussel, dont je vous rappelle qu'il est conseiller général. Aujourd'hui, c'est plus que jamais d'actualité, puisque nous allons parler de la ou des réformes territoriales et en premier lieu, justement, de celle qui va toucher les cantons. Alors, je fais quand même un petit chapeau, un petit résumé, parce que on passerait en Aveyron de 46 cantons à 23, et on devrait avoir dans ces rassemblements l'écart entre deux cantons maximum devrait être de 30% de nombre d'habitants. Rodez, nécessairement, avec ses 30% d'écart nécessaires, devrait passer à au moins 4 cantons et non plus 3, et vraisemblablement Villefranche-de-Rouergue à 2 et non plus 1. Donc les cantons, entre guillemets, urbains seraient au nombre de 14, ce qui laisserait 9 cantons, toujours entre guillemets, ruraux, au lieu de 34. Soit un passage de 74% du Conseil Général à 40% du Conseil Départemental, puisque ça s'appellerait maintenant ainsi. En outre, on peut objecter qu'un territoire n'est pas seulement représentatif de sa démographie. Enfin, les conseillers départementaux, puisque conseillers départementaux il y aura, seront élus au scrutin binominal paritaire, ce qui est une première mondiale et une exclusivité mondiale, un binôme homme-femme pour chaque canton. Je dirais que ça pose aussi aujourd'hui la question du genre, puisque vous savez qu'au programme de première et terminale a été introduit dans les sciences et vie de la Terre le problème du genre, puisqu'on ne détermine plus le genre d'un individu en fonction de son anatomie. Donc je ne sais pas comment on s'y prendra pour le scrutin binominal paritaire. Le suppléant, d'autre part, je poserai aussi la question de savoir ce que devient l'indemnité supplémentaire donnée à un maire de chef-lieu de canton. Il y a des gens, mais on m'a dit tout à l'heure dans nos préliminaires discrets que les indemnités, de toute façon, des élus seraient revalorisées. Alors, sur cette réforme et semble-t-il déjà en premier lieu la diminution de représentativité de la ruralité, mais aussi tout le reste, ben j'ai déjà donné la parole au conseiller général, donc Jean-Louis Roussel.
Dans la question sur la nouvelle réforme, j'imagine, alors moi en tant que conseiller général, issu d'un canton et d'un canton dit urbain, à l'échelle évidemment du département de l'Aveyron, alors j'ai un point de vue sur la réforme, j'ai un point de vue sur ce nouveau mode de scrutin. Quand au nouveau mode de scrutin. Moi, j'étais élu dans le cadre donc d'un scrutin nominal, scrutin majoritaire à deux tours. Et le nouveau scrutin binominal va faire en sorte qu'effectivement, je serai en situation, si je me représente, d'avoir sur avec moi, en l'occurrence, de façon obligatoire, une femme. Et nous devrons porter à deux plus deux suppléants le ticket dans le cadre d'une élection sur un nouveau territoire qui va être effectivement différé avec un découpage à venir, qui vont nous amener vraisemblablement à se retrouver dans un territoire différent. Alors, dans le contexte de Neuchâtel, dont je suis un élu, et le canton Rodez-Nord que je représente, il est vrai que si on doit faire les calculs avec les ratios que vous avez indiqués, il y a peut-être, dans mon cas à moi, la possibilité que je me retrouve seulement avec la commune de Neuchâtel comme territoire, et plus la commune de Sébazac-Concourès et la partie de Rodez qui m'est affiliée. Donc, dans ce cadre-là, effectivement, je vais me retrouver à coller réellement avec une commune. Et c'est un peu une exception, parce qu'évidemment, si on compare au reste du département de l'Aveyron, c'est une grande inquiétude, c'est de se dire quels sont les cantons qu'on va faire fusionner entre eux et quelle réalité géographique, mais surtout démographique, on va y retrouver. Alors, personnellement, sur le scrutin binominal paritaire, si on doit saluer quelque chose de très positif, c'est forcément la parité. Mais moi, qui suis issu d'un parti et d'une tradition à gauche, on aurait souhaité, en tant que parti de gauche et donc une des composantes de la vie politique dans notre pays, peut-être une autre façon de gérer la question de la parité. C'est plutôt un scrutin de liste départementale avec de la proportionnelle. Parce que le grand risque, en définitive, positive, c'est qu'on se retrouve avec deux grands partis ou trois grands partis qui soient en simple situation de pouvoir gagner l'ensemble de ces circonscriptions, ces nouvelles circonscriptions, et de laisser de côté, comme malheureusement sur ce scrutin, on le voit, beaucoup de sensibilité politique. Donc ça, c'est le grand risque. Quant à la parité, ben, on l'aurait eu automatiquement avec un scrutin de liste départementale proportionnelle, à l'image de ce qui existe déjà sur les listes obligatoires au niveau des communes et qui existe également sur les listes départementales dans le cadre des élections régionales. Et donc, on aurait pu se féliciter de la parité dans ce cadre-là. Par contre, le grand souci avec ce nouveau scrutin, c'est qu'on risque d'avoir un gros problème de pluralisme politique. Et je m'en défends parce que je suis, moi, du parti de gauche, mais j'imagine que il faudra d'être une sensibilité politique de droite qui convienne éventuellement à l'UMP ou une sensibilité de gauche très compatible avec le Parti Socialiste, pour avoir des chances de s'imposer dans ce nouveau mode de scrutin. Voilà, donc moi, mon regret, il est peut-être là, parce que le pluralisme politique est assez important, et qu'on connaît des sensibilités qui ne sont pas représentées au Conseil Général de l'Aveyron. On a eu, dans l'histoire du département, des conseillers généraux communistes, par exemple, je regarde Monsieur Jean-Albert Bessière, mais il n'y en a pas actuellement, on n'a pas d'élus écologistes, par exemple, et ainsi de suite, je parlerai de sensibilité peut-être à droite aussi qui manque. Donc voilà, moi c'est ce que je contesterai le plus dans ce cadre-là.
Monsieur Gros, pour le MoDem.
Pour le MoDem, je vais continuer sur ce que disait Jean-Louis Roussel. Effectivement, nous aurions préféré un scrutin de liste et à la proportionnelle, pour les mêmes raisons qu'il le dit. Mais avant d'arriver là sur les modes d'élection, ce qui nous chiffonne un peu, c'est la loi... cette loi, enfin sur les territoires. Qu'est-ce que l'on veut faire? En fait, au niveau de... On s'aperçoit qu'en France, nous avons 36 000 communes, c'est-à-dire 40% du nombre de communes d'Europe. À peu près, l'Allemagne doit en avoir 12 000, je crois. Et que nous avons un problème donc de taille de communes, d'efficience, de comment dire, d'échelle, de pertinence de taille. Et nous avons besoin de revoir notre comment dire notre découpage territorial et notre millefeuille territorial. Or, Nicolas Sarkozy a fait une première réforme en 2010 qu'il avait essentiellement axée sur la réduction des coûts. Pour lui, il suffisait d'enlever un conseiller général sur deux et il avait résolu le problème. Sauf qu'il augmentait le nombre des conseillers régionaux et qu'il fallait tout rebâtir, même pour faire des salles pour accueillir tout le monde. Ça ne collait pas. Et surtout, ça ne résout pas le problème des compétences. Il faut absolument qu'on l'envoie dans un premier temps. Alors là, c'est notre ancienne sénatrice qui est en train de travailler là-dessus. Il faudra savoir ce qui se passe. Mais ce qu'il faut faire, c'est que les compétences soient mieux définies, que le coût, effectivement, actuellement, dans la mesure où on a un mélange de compétences, on a inefficacité et coût plus élevé. Donc il faut faire en sorte que l'on ait les compétences bien arrêtées pour les départements, pour les régions, pour l'État, et puis pour les communes, les EPCI et tout ça, et que l'on regarde exactement comment faire. Alors là, sur le problème du électoral, on a fait un binôme. C'est un peu aberrant. Moi, je trouve que ça serait tellement plus simple de demander la parité à l'arrivée. C'est-à-dire qu'on donne des cantons gagnants à des femmes. Et comme ça, si à l'arrivée, il y a plus de deux hommes, plus que de femmes, on sanctionne et puis c'est fini. Et on leur donnera des cantons gagnables. C'est pareil pour les circonscriptions, c'est la même chose. Est-ce que pour les circonscriptions, on va faire deux députés maintenant aussi? C'est pareil, il y a quelque chose d'aberrant. La deuxième chose que je voudrais souligner, c'est que les conseils généraux pourront leur donner leur avis, mais sur un découpage qui va être fait au niveau du ministère de l'Intérieur. Sarkozy nous avait déjà arrangé ça à sa sauce. Et... faute de quoi, s'il n'avait pas l'accord, c'était les préfets, donc le représentant de l'État, qui choisissaient. Je signale qu'à la Révolution, quand on a fait les départements, les gens ont eu le droit de discuter. Ils ont pu dire, nous voulons être, par exemple, Mur de Barèze mis avec le Cantal, ou Lacan mis avec le Cantal, on demandait à être avec l'Aveyron. Il y avait une raison technique toute simple, c'est que l'hiver, il ne passait pas de l'autre côté. Aujourd'hui, si on demande aux gens de Mur de Barèze, par contre, ils se sentent plus aurillacois que rue Ténois. Mais... il y a eu une discussion. Chez nous, aujourd'hui, dans une belle démocratie qui arrive donc 220 ans après la Révolution, eh ben on n'est pas capable de faire cette discussion.
Alors, sur le, j'observe que ça fait deux intervenants qui réclament la proportionnelle. Alors, moi, je me tourne vers celle qui a les amis qui ont concocté notamment ce scrutin binominal paritaire. Je suis obligé de regarder mon papier à chaque fois parce que c'est difficile à prendre par cœur. Donc, je souhaite que Sarah Vidal nous, notamment sur la proportionnelle, parce que d'habitude, les socialistes, ils sont pas tellement contre. C'est eux qui ont installé le scrutin municipal sous lequel on est, ainsi que le scrutin régional.
Alors, dire déjà que sur cette réforme des territoires, qu'il y a quand même deux visions que l'on doit prendre en compte. D'abord sur un plan démocratique, à savoir aujourd'hui quelle est la perception des citoyens de l'action politique et de l'action publique sur nos territoires, avec ce fameux millefeuille dont on parle. Et ensuite, une vision qui est imposée aussi par un contexte difficile, avec la crise, avec les politiques qui ont été menées ces 10 dernières années contre les collectivités. Donc, aujourd'hui, le gouvernement et le président tel qu'il avait proposé pendant la campagne a développé deux axes pour cette réforme des territoires. Alors, de quoi on parle concrètement ? Parce qu'on parle de réforme territoriale, c'est un terme générique, ce sont deux textes. Il y a d'abord le projet de loi relatif à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires qui est actuellement donc à l'examen en deuxième lecture à l'Assemblée nationale. Et ensuite, il y a le projet de loi de décentralisation et de l'action publique qui est, lui, porté par Anne-Marie Escoffier. Et je dois dire qu'il est actuellement, on ne connaît pas encore le texte définitif, puisqu'il est actuellement au Conseil d'État et qui sera présenté en Conseil des ministres que le 10 avril. Donc, ce sont ces deux textes qui vont un petit peu venir clarifier l'action des différentes collectivités pour nos territoires. S'agissant du scrutin binominal, je pense qu'il y a eu la volonté à la fois de conserver l'ancrage territorial, qui fait aussi la spécificité de l'élection des conseillers généraux actuellement. C'est une proximité, on se rend compte aujourd'hui que c'est un véritable mandat de proximité. Alors on s'en rend peut-être moins compte sur les territoires urbains, mais sur les territoires plus ruraux, c'est un véritable mandat de proximité. Donc à la fois l'ancrage, conserver l'ancrage territorial, et à la fois favoriser la parité. Parce que, juste quelques chiffres, la parité, aujourd'hui, elle est quand même dans les départements. Il n'y a que 5 femmes en 2011, il y avait seulement 5 femmes qui présidaient un conseil général. 13,5% des femmes étaient élues conseillères générales. Et il y a encore 3 départements en France qui ne comptent aucune femme conseillère générale. Donc, il y a eu quand même différentes évolutions dans la loi, et notamment une loi de 2007 qui tendait à promouvoir l'accès aux femmes, pour les femmes, aux mandats, aux fonctions électives. Sauf que le constat, c'est que dans 79% des cas, les femmes ont été cantonnées au rôle de suppléante, de remplaçante. Donc aujourd'hui, la question de la parité, c'est vrai qu'on aurait pu la faire avec un scrutin de liste, mais de conserver à la fois l'ancrage territorial et la parité, on a mis en place ce scrutin binominal. Voilà.
Monsieur Bessières, pour le Parti communiste, les élections cantonales, normalement, c'est pas absolument la tasse de thé du Parti communiste. Et le scrutin binominal paritaire va peut-être pas vous faciliter les choses. Est-ce qu'on va voir reparaître le Front de Gauche ?
D'abord, ce qui a été examiné, ça a supprimé l'élection du fameux conseiller territorial.
Oui.
Un premier point qui nous semble intéressant. Après, toute la question, c'est de savoir, dans le cadre de cette nouvelle organisation qu'on veut, enfin que le gouvernement veut, ou les gouvernements successifs veulent, c'est de savoir si on va plus vers de la démocratie locale ou pas. Et donc, avec les différents niveaux et les compétences, je partage avec vous, puisque là, c'est remis, il y a un certain nombre de compétences qui sont remises, y compris la loi de centralisation qui va venir, même si on n'est pas d'accord sur tout, parce que après c'est l'État qui se désengage, donc et qui transmet, et donc la République est une indivisible, ça peut remettre en cause des traitements de citoyens suivant où on va se trouver. C'est vrai pour l'école, c'est vrai pour les services publics, etc., etc. Donc, pour la question que vous posez, le danger de au-delà des histoires de binôme, on n'est pas d'accord, on l'a dit, on l'a voté, on est les seuls à avoir voté contre au Sénat, puisque que ce soit l'UMP, l'UDI qui se soit abstenu, et le Parti Socialiste, les radicaux de gauche et les Verts qui ont voté pour, on est les seuls à avoir voté contre. Bon, ça passera probablement à l'Assemblée nationale ce soir. Il y a des gens qui ont été élus majoritairement, on sera bien obligé de respecter les lois. Est-ce qu'une loi est votée, n'est-ce pas, monsieur? Il faut la respecter après. Qu'elle soit votée par la droite ou par la gauche. D'accord?
Le principe de la loi.
Voilà. C'est pas toujours vrai dans les cas suivants qui est au pouvoir, si on le respecte ou pas. Donc, je crois que l'enjeu qu'il y a aujourd'hui, c'est demain, quand on lit les élections cantonales, les élections d'intercommunalité, le fléchage, donc qui rend souverain.
On va y venir après, mais.
Non, mais je le lis volontairement. Dire que demain, nous on pense que c'est la remise en cause du rôle des communes, leur proximité, et du rôle du département qui va se supprimer. Et on passera l'Europe, la région, les intercos. Pour ça qu'aujourd'hui, on agrandit les intercommunalités, on voit bien que toutes les communes, comment à travers la CDCI, pour y assister assez souvent, comment c'est dur parce qu'elles veulent garder cette
commission départementale intercommunalité.
Voilà. Comment c'est difficile de faire progresser ces choses-là parce que les maires de nos petites communes, ils sont de proximité, ils ont la sensibilité des gens qui sont proches. Le seul maillon qui est près des gens, qui est la commune, s'il disparaît, la démocratie dans ce pays va en prendre un coup, quand même. Donc voilà les grandes idées pour le moment. Après, si c'est des binômes, eh bien on ira aux élections. Dans le cadre du Front de Gauche, oui, on ira sur des binômes. Il ne faut pas confondre toutes les élections. Hein. Voilà. Donc, on ira dans le cadre. Le Front de Gauche existe, il n'a pas été remis en cause. Il y avait le congrès du Parti de Gauche, mais je ne veux pas m'y misser. Ils ont décidé des choses et ils ont confirmé leur activité dans le Front de Gauche. Comme nous, il y a un mois, on l'a confirmé à travers notre congrès. Donc, on ira à la bataille ensemble. Alors, c'est vrai. Après, on règle le problème de la parité. Nous, on avait dit que c'était une bonne chose, d'ailleurs, au niveau des débats qu'il y a eu. Il en reste pas moins que sur le bipartisme, là, Jean-Louis, tu as tout à fait raison, ça va poser un vrai problème, et c'était facile à faire, avec des élections proportionnelles, même s'il avait fallu faire majorité, comme ça a été fait en municipal, en voie au régional, d'ailleurs, où il n'y a pas de majorité qui se dégage, si je ne me rappelle plus trop. C'est pas comme... Il n'y a pas 50% de données au premier.
Non.
Hein?
Non.
Au régional. S'il y avait au moins eu ça, ça aurait pu permettre à la proportionnelle de donner, ça aurait été mieux par rapport à ce qu'on connaît là. Voilà. Après, on fera nos affaires de ce qu'il faut. Ce sera compliqué, certainement. Mais bon, on verra.
Monsieur Théron, à l'UDI.
Ce que je pense, si vous voulez, c'est qu'une fois de plus, à mon avis, on va passer à côté de l'essentiel et peut-être du plus important. On l'a dit tout à l'heure, c'était de simplifier un petit peu le millefeuille dans toute la hiérarchie des collectivités qui existent.
On aura moins de cantons.
Bon, on aura certainement moins de cantons, mais avec la représentation binominale, on aura le même nombre d'élus.
C'est pour pas froisser, là. Hein. C'est pour ça qu'ils ont maintenu le nombre, moi, sinon.
Oui. Bon. Alors, je crois que c'est dommage qu'on ait pas saisi cette occasion. C'est pas la première fois que ça se présente, mais chaque fois qu'on est au pied du mur, tout le monde trouve une esquive pour essayer de garder le même nombre d'élus, le même nombre de collectivités, etc. Et je crois qu'aujourd'hui, Monsieur Gros l'a souligné pour le MoDem, on a des collectivités qui n'ont plus de représentativité. Je veux bien que la commune, ce soit l'échelon, le premier échelon de la démocratie, mais quand il y a moins de 100 habitants, c'est le cas pour certaines communes.
Il y a des communes où il y a moins d'habitants permanents que de membres du conseil municipal.
Voilà.
Ça existe.
Alors, est-ce qu'on peut parler de communes et est-ce qu'on peut parler d'atteinte à la démocratie si, par hasard, on regroupait certains territoires qui sont aussi peu peuplés? Voilà. Donc ça, c'est une remarque en général. La deuxième chose, c'est de dire qu'aujourd'hui, rien n'est connu quand même, hein, puisque le Parlement est en train d'en débattre. Alors bon, on a un certain nombre d'éléments qui ont été avancés. Je note qu'ils ne font pas l'unanimité, quelles que soient les couleurs politiques. Hein. On ne peut pas dire qu'il y ait un camp qui défende plus une position de manière unanime et totale qu'un autre. Donc c'est très partagé. Alors bon, la parité, on peut en discuter. Je ne sais pas si ça va changer grand-chose. On a discuté un peu en aparté tout à l'heure quel va être le rôle des femmes, notamment dans les binômes, quand elles ne seront pas en tête.
Est-ce qu'elles femmes ou des hommes,
elles sont au même niveau,
donc il n'y a pas les hommes ne seront pas.
Donc un binôme peut voter différemment.
Oui.
Oui, mais il faut qu'elles s'entendent quand même pour former un binôme. Quand même, c'est une équipe. Enfin, je veux dire, il faut quand même s'entendre.
Ça dure 6 ans et sur bien des sujets. Donc, il se peut que.
Si étant l'expérience au monde,
le binôme diverge.
S'il y a pas eu, chaque fois qu'il n'y a pas de loi, ça n'avance pas. Le seul endroit aujourd'hui où ça n'a pas progressé, c'est dans les conseils généraux.
Ouais. Complètement.
C'est le seul endroit.
C'est sûr.
Et les petites communes de moins de 3000 ou 3500 habitants.
Oui, oui.
Ça n'a pas bougé non plus. Hein.
La Chambre des députés est quand même assez fournie en hommes machistes. Il y a 20% de femmes.
Ceux qui font les lois ne les respectent pas toujours non plus.
Mais qu'on fasse la parité, non pas au départ, comme candidat, mais à l'arrivée, comme élu.
Je voudrais donner la parole maintenant à M. Spain pour l'Union pour un moment populaire, parce que lui, il assiste à un détricotage en plus. Il assiste à un retricotage et un détricotage.
La réforme commence donc par l'abrogation de la réforme sur le conseiller territorial. Comme le disait Sarah Vidal juste avant, pour les raisons qu'elle a évoquées, je pense que ce n'est pas forcément une mauvaise chose pour une raison d'ancrage local qui fait que le conseiller territorial, par sa présence au conseil régional, aurait peut-être perdu un peu pied avec la base. Donc sur cette formule-là, si vous voulez, moi je ne suis pas forcément opposé à l'abrogation de cette réforme-là. En revanche, comme l'a dit... j'ai pas fini ma démonstration. En revanche, comme l'a dit le MoDem juste avant, la raison pour laquelle Nicolas Sarkozy a fait ça, c'est dans un souci d'économie. Là, on voit une réforme qui va de redécoupage électoral qui va favoriser les milieux urbains sans tenir compte des diversités de notre territoire, puisqu'il faut savoir que le département de l'Aveyron, tout le monde est au courant, est rural. Hein, donc l'Aveyron, c'est un des premiers départements qui va pâtir de ce redécoupage. On va diviser par deux les cantons, on va laisser le même nombre d'élus. Donc sur le plan économique, c'est une opération blanche. On économise absolument rien du tout. Et sur le principe de la parité, qui est une bonne chose, puisque si on peut faire avancer l'égalité entre les hommes et les femmes, moi je suis tout à fait pour et je le défends. En revanche, faire de la parité forcée et au lieu de faire évoluer les mentalités, légiférer sur ce domaine-là, je trouve que c'est une mauvaise chose. Pourquoi ? Parce qu'on contraint les gens finalement à faire partir des femmes, qui peut-être des femmes ou des hommes, hein, puisque selon le cas, ça peut être l'un ou l'autre. Hein. Bon, en l'occurrence, c'est plus les femmes qui sont moins représentées. Mais on va faire partir des femmes qui sont pas forcément sensibles à la politique, qui s'intéressent pas spécialement. Mais comme on va avoir une obligation légale d'avoir la présence d'un homme et d'une femme dans un scrutin binominal paritaire, finalement, on va privilégier le genre par rapport à la compétence. Et on va peut-être faire monter des gens qui n'ont pas la compétence d'être présents. Je mets pas en cause les femmes, je mets simplement en cause le principe.
C'est difficile. Oui, c'est quand même un peu difficile d'entendre ça. Ça sous-entend que les femmes seraient moins compétentes que les hommes. Donc
c'est pas ce que je veux dire. Ça, c'est l'interprétation que vous en faites. Ce que je veux simplement dire, c'est que quand on force à une élection.
Comment ce soir
regardez, autour de la table.
Il y a Sarah. Et puis après, on est que des
mecs. Mais si les femmes en Aveyron ne sont pas sensibles à la chose publique, c'est pas en légiférant. Il n'y a rien de scandaleux. C'est pas en légiférant qu'on va faire changer les mentalités.
Je pense qu'il y a besoin de légiférer.
Je suis désolé, c'est par la pédagogie. Si on ne sait pas faire de pédagogie, à un moment donné, qu'on fasse autre chose.
Pourquoi ça ne fonctionne pas depuis les constats, les chiffres que j'ai donnés tout à l'heure montrent que ça ne marche pas. On est obligé, malheureusement, de légiférer. Après, juste pour un petit point, sur les territoires, effectivement, on va passer de 46 cantons à 23. Les départements.
On va surtout passer à 9 cantons ruraux.
Non, mais alors ça,
pour l'instant, je ne vous ai pas entendu beaucoup.
Pour l'instant, on n'en sait rien, parce qu'on n'a pas vu le redécoupage. Comme l'a rappelé M. Gros, c'est le ministère de l'Intérieur qui fera ce redécoupage. On ne l'a pas vu. Mais aujourd'hui, quand même, il faut regarder l'Aveyron, 288 000 habitants, 46 cantons. On prend l'exemple de la Haute-Garonne. Plus d'un million d'habitants, il y a 53 cantons. Le Finistère, 925 000 habitants, 54 cantons. Donc, je pourrais en citer plein d'autres exemples. Tout ça pour dire qu'en Aveyron, on a un territoire qui est grand, mais qui a un nombre de cantons plus important en regard de ce qu'il y a dans les autres départements. Donc il y avait quand même...
Tenir compte de la réalité, de la géographie et de la ruralité.
Le conseil constitutionnel ou le conseil d'État, un des deux, je m'en rappelle
plus. Constitutionnel
avait dit qu'il fallait de toute façon revoir les
jurisprudences constitutionnelles, de tenir compte du rapport démographique dans la représentation. C'est une logique.
À un moment donné, on est obligé.
Ça, c'est la démocratie.
Oui. on est obligé à un moment donné de revoir le nombre de territoires. La réforme de Nicolas Sarkozy c'était 29, on est à 23. Je veux dire, en Aveyron aujourd'hui la réalité c'est qu'il y a des cantons de 800 habitants, des cantons de 23. Oui, Saint-Chély-d'Aubrac fait 800. Le canton de Rodez-Ouest, qui est le plus important, fait 23 000 habitants. Donc, à un moment donné aussi, il faut, je crois, faire des cantons qui soient... Et le seul critère qui compte, c'est effectivement le critère démographique. Donc,
mais voilà. Là, je retiens quand même que je viens d'entendre, c'est le seul critère qui compte.
Il faudra l'expliquer au Conseil général de.
C'est vraiment le seul candidat.
Il y a un problème de densité de population.
Non, puisque ce qui est prévu, il peut y avoir des variantes de 30%, plus ou moins, ça fait que ça peut aller de 8500, je viens de le compter, 30%, si c'est retenu par l'Assemblée nationale demain, de 8500 à 15600.
C'est ça.
Quand même pas tout ou rien, c'est pas. Passe pas de. Donc, je veux dire, et ça va être tenu compte. Y compris que je crois que dans le texte, si mes souvenirs sont exacts, il y a une particularité de la ruralité. Si, par exemple, prenons le Brac, qui est peut-être plus isolé, il y aura peut-être, s'il faut, mettons, 10 ou 15 cantons pour faire atteindre ce niveau de 8500, il y aura peut-être possibilité, je sais pas si c'est écrit comme ça, mais de faire avec 5000 pour en avoir. Sur 10 et 10, quoi. De manière à ce qu'il y ait quand même une logique et le Conseil général aura donné un avis. Alors un avis, c'est pas une décision, on est d'accord. C'est pas la loi. Mais je pense que ça se fera, même si on peut toujours douter des différents ministres de l'Intérieur qui viennent tripatouiller. Nous, au Parti communiste, on n'a jamais eu de ministre de l'Intérieur. Donc on n'est pas embêté là-dessus. On a subi chaque fois. Les choses. Donc, voilà.
On part sur une base démographique, effectivement, avec cette variable de plus 30, plus 30 ou moins 30.
C'est vrai que c'est pas absurde de partir sur une base démographique aussi, puisque il y a des cas, ça revient à donner 2 bulletins de vote à un électeur, voire 3. Et en même temps, éliminer complètement les données historiques, géographiques, touristiques, économiques, il y a sûrement une pondération à faire. Alors, je viens de noter qu'elle serait 30, sûrement prise
en compte. Plus 30 ou moins 30, oui. Avec des spécificités. Juste un autre exemple. En Aveyron, c'est vrai que la moyenne, ce serait de 15 000 des cantons, de 12 500 habitants, des cantons des territoires. En Haute-Garonne, si vous prenez la population, ça va faire des territoires de 45 000 habitants. Donc là, on comprend qu'au-delà des plus 30, moins 30, effectivement, il y a des spécificités qui s'appliquent. Je crois qu'il y a. Et ça, ils veulent le prendre en compte. Voilà.
Oui. Alors, le deuxième aspect de la réforme territoriale, enfin, pas le deuxième, parce qu'il y en a beaucoup plus que deux, mais un des aspects, c'est aussi la réforme sur les EPCI, c'est-à-dire en clair les communautés de communes. Et là, l'État souhaite d'une part que plus une seule commune soit hors communauté, d'une part, et d'autre part, diminuer leur nombre, donc avoir des communautés de communes avec un nombre plus important de communes. C'est ainsi qu'actuellement en Aveyron, il y en a 36 EPCI, et qu'on passerait à seulement 16 en incorporant toutes les communes qui étaient, entre guillemets, indépendantes. Ce qui ferait une moyenne de 19 communes par EPCI au lieu de 8. Là, on parle en moyenne, ça ne veut pas dire une grande chose. Et d'autre part, il y aurait également une élection. C'est d'une certaine manière les conseillers communautaires qui, je le rappelle, votent l'impôt et n'étaient pas élus seraient d'une certaine façon élus. Ben là, je redonne la parole à Sarah Vidal puisque sont ses amis qui concoctent cette chose qui est censée diminuer le millefeuille.
Non, et je m'excuse sur cette particularité, c'est à peu près. C'est ce qui avait été voté dans la loi précédente, puisqu'il y a on parle de la partie cantonale, conseil territorial, mais sur les intercommunalités, à quelques mots près, c'est la même loi qu'avait fait Sarkozy. La même. À quelque chose près. Voilà.
Monsieur Smaïn, vous l'avez dit. Absolument.
Jean-Louis,
pas
confirme ou pas?
Oui. Sarah Vidal également, pour partie, et va nous apporter les précisions des nouveautés.
Voilà. Non, la seule chose, on parle à chaque fois de millefeuille, mais enfin, je veux dire, pour moi, c'est le millefeuille, on est bien d'accord, c'est quelles sont les compétences des collectivités. Là, on est en train de parler sur les modes d'élection pour que ce soit plus lisible pour les électeurs. Donc, c'est quand même.
Pour que les gens qui votent l'impôt soient élus.
Voilà. Mais je veux dire, le millefeuille, c'est pas la même chose que les modes de scrutin. Sur le mode de scrutin, effectivement, qui est aujourd'hui, il y a trois collectivités de plein exercice, effectivement, la commune, le département, la région. L'idée est de flécher les conseillers, les délégués communautaires.
Ce qui voudrait dire que sur des listes municipales seraient indiqués les candidats qui seraient ipso facto, s'ils étaient élus, et conseiller municipal et membre
exactement.
Du conseil intercommunal.
Exactement. Donc, voilà. Exactement. Donc, l'idée, c'est que les premiers sur les listes aux élections municipales, les personnes qui sont en début de liste, elles sont clairement identifiées pour être, pour siéger et pour être donc élues. Élus communautaires. Donc aujourd'hui, il y a simplement deux visions. Ça n'a pas été tranché, à savoir si est-ce que c'est un fléchage, c'est-à-dire soit elles sont en gras, je ne sais pas exactement quelle forme ça prendra, hein, soit elles sont en gras sur cette fameuse liste au conseil municipal, ou si sur le même bulletin de vote, deux listes apparaissent, à savoir la liste des candidats aux élections municipales et à côté la liste de ceux qui siégeraient au conseil communautaire.
Aussi.
Bien sûr, aussi. Ce qui fait une élection au suffrage universel direct.
Monsieur Spahin, alors c'est presque la même chose que Sarkozy?
Pas grande différence, hein, le changement c'est pas sur tous les domaines apparemment, mais sur le principe moi je m'oppose pas à cette réforme là, puisque ça donnera une meilleure visibilité, comme vous le disiez très justement, ça permettra aux élus communautaires de voter l'impôt, ils seront élus donc ils voteront l'impôt communautaire. Par contre la question que je me pose c'est sur le regroupement des communes, je crois qu'on est, si je dis pas de bêtises, je crois 98% de communes qui font partie de l'intercommunalité, on doit être dans ces chiffres là, c'est bien de mettre, que toutes les communes mettent leurs moyens ensemble pour bâtir des projets. Maintenant, il se pose une question, notamment sur la communauté d'agglo du Grand Rodez. On parlait d'intégrer Barraqueville, etc. Au niveau de la superficie, jusqu'où est-ce qu'on peut aller raisonnablement? Si on doit doubler, si on doit passer de 8 à 16, jusqu'où est-ce qu'on ira? Voilà, c'est la seule question que je peux me poser sur ce...
Vous citez un cas là, sur Barraqueville qui est quand même assez préoccupant, parce que Barraqueville viendrait dans l'intercommunauté, mais certaines petites villes qui sont à côté n'y viendraient pas. Or, elles sont engagées également sur des investissements ou autres, sur lesquels Barraqueville, qu'en fera-t-il? Est-ce qu'il repart avec les investissements qui lui ont été consentis, ou est-ce qu'il le laisse aux petites communes qui sont voisines? Ça posera beaucoup de problèmes, de toute façon. Ça n'a rien à voir avec la loi, mais c'est délicat.
Problème pour la Terreau, ça.
Oui.
Moi, si vous voulez, je pense que c'est quand même un petit peu dangereux. Hein. On peut être d'accord, effectivement, sur le fait que l'élu communautaire soit élu au suffrage universel. Par contre, on va un peu vers la supracommunalité. Et ça, c'est peut-être pas forcément ce que tout le monde souhaite. Mais il faut le voir comme ça. Parce que ça veut dire que c'est l'électeur qui choisit, alors qu'en fait, qui choisit son représentant communautaire... Parce qu'il lève l'impôt, effectivement. Enfin, il vote l'impôt, certes. Mais je pense que dans l'intercommunalité, c'est un lieu où on ne devrait pas faire de politique. C'est un lieu où on est là, ensemble, regroupés, pour mettre en commun et en œuvre un certain nombre de projets dans l'intérêt du territoire qu'on représente. Et ce, à mon avis, quand on est à l'intercommunalité, j'ai été élu... Pas tout à fait. J'ai été élu communautaire... Je représentais et je défendais les intérêts de la commune de Rodez dans la communauté d'agglomération. Il ne peut pas en être autrement. Or, si vous voulez, je ne vois pas comment j'aurais pu être en désaccord avec ce qui était le souhait majoritaire à la commune de Rodez. Or, si c'est l'électeur qui choisit, on peut avoir ce genre de dissonance et ça me paraît très gênant. Voilà, c'est un point de vue, mais pour avoir pratiqué, avoir suivi pendant longtemps les débats de l'Association des communautés de France, je peux vous dire qu'il n'y a jamais eu une unanimité là-dessus, parce que il n'y a pas de schéma idéal, et vous pouvez y réfléchir comme vous voudrez. Ça paraît simpliste de dire, ben oui, il lève l'impôt et il n'est pas élu, etc.
Il est élu, il lève l'impôt, il le fait indépendamment, enfin avec son mandat d'élu communautaire. Effectivement, ça peut peut-être donner lieu à des explications au conseil municipal. Mais c'est
à la communauté, on représente avant tout la commune. Hein, on est un représentant de la commune. Et je trouve que c'était très bien que ce soit les conseils municipaux qui élisent leurs représentants.
Monsieur Roussel.
Oh, je pense qu'on peut avoir deux visions sur cette question-là, et dont celle défend Monsieur Théron, mais bon, pour ma part, ça m'a toujours posé la question, c'est la responsabilité politique des élus communautaires en direction de la population. Depuis tout le temps, évidemment, on se pose la question, est-ce que les élus du conseil communautaire n'ont pas à rendre des comptes à un moment donné, n'ont pas à mettre un bilan sur la table, n'ont pas à mettre un projet sur la table à un moment donné. Donc je comprends bien que indirectement, les élections municipales, d'une façon ou d'une autre, on est obligé d'y passer à évoquer la question communautaire, vu les enjeux qui sont très importants dans le regroupement de ces communes, que ce soit l'assainissement, que ce soit la politique des transports, et bien d'autres questions très importantes au regard des communes elles-mêmes et de l'ensemble de ces communes. Donc moi, personnellement, je trouve qu'il était peut-être temps d'arrêter de déresponsabiliser les conseillers communautaires. Il faut que politiquement, ils soient responsables vis-à-vis des électeurs, et je trouve finalement assez bien qu'on puisse, d'une façon indirect, plus ou moins indirect, ou plus ou moins direct, à un moment donné, avoir un débat dans un temps électoral sur l'enjeu communautaire, qui, à mon avis, est quand même l'enjeu essentiel au regard, si on prend la communauté de l'agglomération, des enjeux financiers, mais aussi des perspectives d'avenir. Donc, ça ne me choque pas. Je crois qu'il était peut-être temps de trouver le bon lien. Et après, on a évoqué la perspective de toutes ces communes qui finissent par être des ensembles sans population. On peut comprendre peut-être que les intercommunalités sont peut-être le passage obligé de façon naturelle à ces espaces, ces territoires qui n'ont plus assez de population pour avoir une raison de vivre en termes matériels d'organisation. Donc non, moi je suis plutôt favorable effectivement à ce qu'on trouve un mode de fléchage direct des élus communautaires, et si ça passe par une liste municipale qui les flèche, c'est plutôt heureux, et ça aura aussi une double impact intéressant, c'est-à-dire que dans le cadre des listes obligatoires qu'on connaît et qu'on va connaître même à partir de 500 habitants par commune.
C'est 500 ou 1000 ?
C'est ça. Alors, le gouvernement civil, le Parlement, c'est 500.
Oui. Voilà, donc il y a une discussion sur le niveau, mais évidemment, le seuil va être baissé. On va passer donc de 3500, qui était la règle jusqu'à présent, à éventuellement 1000 et 500 par rapport aux communes. Mais ce qui va être intéressant, c'est que les listes en concurrence électorale vont flécher de façon, de la même façon leurs élus communautaires, et que finalement, en fonction de leurs résultats et de cette petite marge proportionnelle, on aura des élus dans un conseil communautaire, une communauté d'agglomération. Je pense qu'il y aura un gain vraisemblable pour la démocratie, la représentativité.
Alors moi j'observe que les élus communautaires vont enfin être élus par des électeurs, mais quand on vote pour une municipalité, on sait à peu près pour quel maire on vote. Et dans le cas que vous m'exposez pour les communautés de communes, je n'ai pas vu qu'on sache qui sera le président de la communauté de communes, M. Bessière.
Pour je vais y arriver, des élections d'une liste agglomération, par exemple, de Pont-Audès, avec une tête de liste qui sera le président, etc., etc. C'est ça que vous voulez dire.
Oui, c'est ce que je veux dire. Je suis sur une municipale.
On n'est pas encore là.
Surtout avec le scrutin de liste, on sait que c'est le
jour,
maire,
à mon avis.
Mais
le jour où on en sera là, on n'élira plus le maire.
À vous avouer.
Non mais c'est pas, je l'ai dit tout à l'heure. On n'élira plus le maire après. On élira des maires de quartier, des trucs comme ça, mais on n'élira plus le maire le jour où on en sera là, hein. C'est sûr.
Monsieur Rowe.
Oui, nous, MoDem, nous avons dans notre charte le principe de subsidiarité, qui est dans la Constitution française depuis 2003, parce que Raffarin l'a fait mettre, mais personne ne s'en occupe. Alors, principe le principe de subsidiarité, absolument, ça veut dire qu'on doit décider au plus près de l'endroit où la chose se passe. Mmh. Les choses de la commune, elles se décident dans la commune. Les choses de la communauté de communes se décident dans la communauté de communes, dans le canton. Et on doit ne monter à l'échelon supérieur que quand on ne peut plus ou que ça devient trop important.
Vous n'êtes pas contre le millefeuille, alors ?
Non, ça n'a rien à voir.
Ah bon ?
Mais, parce que...
Non, mais vous parlez commune,
département,
région, donc je comprenais pas tout.
Non, ça veut simplement dire qu'on ne fait pas remonter en haut quelque chose qu'on peut décider.
D'accord, c'est pour ça qu'il faut les garder, les échelons.
Mais on peut en enlever, mais on ne passera pas forcément à l'échelon du dessus, parce qu'il y a un échelon au-dessus. Mais la question qui se pose, là, c'est qu'on parle tous, mais entre, disons, public averti.
Oui.
Si vous demandez dans un village, je ne sais pas comment ça se passe au Café du Commerce à Rodez, mais
ça
si
parle,
je vais au Café du Commerce dans nos villages, Vous demandez aux gens qui s'occupent de ci, qui s'occupent de la communauté de communes, le PCI et tout ça, ils sont paumés complètement. Alors, l'idée que pourrait faire cette réforme, c'est faire mieux connaître.
Ils regardent quand même leurs feuilles d'impôts locaux. Hein.
Oui, mais c'est pas grave. C'est pas grave, le maire va dire c'est pas moi, c'est le département. Le département va dire c'est pas moi, c'est la région. Et ça arrive toujours à Bruxelles à la fin. c'est jamais moi. Bon, et on crée un niveau d'irresponsabilité et qu'on ne pourra faire tomber que par l'instruction, dire aux gens qui fait quoi d'une manière claire et précise. Que le social, par exemple, c'est le département, que les lycées, c'est la région. Il y a plein, nous on a un lycée, un collège, je veux dire, ils ne savent pas qui. Et d'une manière générale, les gens sont peu avertis du fonctionnement territorial. Donc, ça serait l'occasion de faire connaître.
S'il y a un échelon qui était relativement ignoré du grand public, c'était bien le pays. Ouais. Et le pays, je voudrais savoir si quelques-uns d'entre vous vont verser une larme sur sa disparition. Moi, j'observe que s'il disparaît, c'était le seul endroit où il y avait une tentative de démocratie participative. Ouais. Alors, est-ce que la disparition du pays, êtes-vous ému par cet échelon qui n'était pas censé être dans le millefeuille, c'était un bout de crème entre les croûtes.
Ouais, mais ça mettait en conflit les intérêts d'un conseil général, puisque le pays dépassait souvent le département.
C'est Madame Voynet, je crois qu'il y avait.
Mais c'était la résultante d'une loi Voynet et d'une loi Pasqua.
Oui.
C'est un bel hybride. Quand
mais
même.
Au départ, c'était pas si mal que ça. Moi, je crois que j'ai un petit peu. Parce qu'il y a les conseils de développement aussi, surtout.
Oui, c'était partie intégrante.
C'était pas mauvais. C'était une boîte à idées. Après, les différents niveaux les reprenaient dans leurs débats, etc., dans leurs propositions. Aujourd'hui, on est arrivé où, à mon avis, avec déjà les strates qu'il y avait, puis il y a aussi, ça représentait de l'argent quand même, il faut quand même appeler un chat un chat. Mais il y avait aussi la discussion des SCOT, où on retrouvait à travers les schémas les SCOT. Et donc, tout ça, ça se confondait un peu. Personne ne savait plus ce qui se faisait. Donc, au départ, d'une bonne loi qui aurait dû permettre à aider à construire plus que ce qu'on dit l'intercommunalité, parce que, juste, on est à 36 aujourd'hui, intercommunalité, communauté de communes ou agglo, vous avez dit qu'on passerait à 16, non. 16, c'était l'objectif, voire 12. Sauf qu'aujourd'hui, à la sortie de la CTCI, à la fin de l'année, si on est à 30, ça sera bon, quoi. Parce qu'il y a, il faut voir un peu, moi j'ai assisté, je ne sais pas si vous avez assisté à la CDCI, on veut plus de 1000 feuilles, il faut faire des économies, mais pas chez moi. Hein. Moi je reste là où je suis et je ne veux pas, voilà. Donc c'est très compliqué, la vie politique et ces maires des communes, de la communauté, dans les grandes, moi bien Baraqueville, vous l'avez cité, hein, ce que ça a fait, ce n'est pas une histoire de sous, il faut trouver et les réaffecter normalement, mais il y a les capacités d'y arriver. Mais voilà, donc tout ça, les pays, ils ont perdu un peu de leur pertinence, c'est vrai.
Oui, c'est le même pour aller dans le sens de Jean-Albert Bessière. C'est vrai que les pays ont aussi concouru à ce millefeuille administratif. Je crois qu'aujourd'hui aussi, l'intercommunalité, elle est venue un petit peu prendre la suite, puisqu'aujourd'hui, effectivement, si l'objectif était passé de 36 à 16 ou 12 pour le département de l'Aveyron, c'était aussi les agrandir en fonction des évolutions aussi, des bassins de vie, des bassins économiques sur les territoires. Et je crois que c'est finalement les intercommunalités qui ont pris le relais et qui ont pris toute leur place pour venir remplacer, en tout cas, qui font aujourd'hui le travail qui était au départ, on peut dire, alloué ou que pouvaient faire les pays. Voilà.
Ça serait vrai si elle passait à 16 ou 12, si elle reste 30.
Ben, c'est pour ça que des fois l'intervention aussi de l'État, quand on prend sur ou les redécoupages ou sur ce type de réforme sur les institutions, le niveau national des fois peut permettre, on va dire, d'éviter les problèmes de chaque, on le sait, s'il y a des petites communes, chaque maire veut conserver sa commune. Des fois, il faut pour avoir le tous les élus n'ont pas la volonté et le courage de réformer aussi les territoires sur lesquels ils sont élus. Donc c'est une réalité.
Ils n'ont pas envie de diviser la commune.
Ils sont les premiers.
Après,
les premiers obstacles à la modification.
C'est ça. Donc, à un moment donné, il faut aussi que ça passe, ça se passe à un niveau supérieur. Juste pour, sur la clarification des compétences. Je crois que, enfin, je veux dire, c'est dans le texte sur lequel a travaillé Anne-Marie Escoffier. C'est la base de son texte. Elle l'a dit, c'est l'unicité de la République dans la diversité des territoires et la subsidiarité des territoires. C'est un terme qu'elle a employé quand elle est venue présenter l'avant-projet de loi en Aveyron. Je crois que dans ce texte, clairement, sont définis des échelons avec des compétences qui sont associées, très clairement, avec la région, l'économie et la formation professionnelle, le département, l'action sociale qui lui est dévolue, plus l'ingénierie territoriale et l'aménagement numérique du territoire, et ensuite les communes avec les compétences qu'elles ont aujourd'hui, plus le développement durable. Donc je crois que dans le texte qui sera présenté par Anne-Marie Escoffier, il y a quand même une clarification qui est faite par une clarification des compétences qui est faite, et ensuite seront organisées des conférences de territoire où l'ensemble des collectivités se mettront autour d'une table et conventionneront pour savoir qui est le chef de file sur des compétences qui ne seraient pas dévolues aux collectivités dont je viens de mentionner.
Il se crée un échelon supplémentaire, le conseil territoire régional, et qui peut être il y a le national, le régional et le là aussi c'est des gens qui vont être nommés, je sais pas comment.
Non, c'est régional, hein, c'est simplement régional.
Déjà, il faudrait limiter le nombre de régions. Enfin, on a des régions qui sont absolument pas pertinentes. En Picardie ou Limousin, on se demande à quoi ça sert.
Les Alsaciens ont réglé leurs problèmes entre eux.
Oui. Mais leur possibilité à l'export, par exemple, de faire une action régionale et tout, est très faible. Nous avons la chance d'être dans une grande région qui est relativement prospère. Mais ça n'est pas le cas partout. Et on voit l'Allemagne qui a 16 régions, avec des régions qui font... le Bade-Württemberg fait 18 millions d'habitants, c'est-à-dire plus que Paris. Ils ont quelques petites régions qui font 1 million, comme la Saxe ou la ville de Berlin. Mais ils ont 16 régions, nous on en a 23. On se demande combien il y en a de trop.
On ne peut pas tout faire comme les Allemands, quand même.
Les attributions de ces différents échelons administratifs et la disparition des pays.
Sur le principe de la décentralisation, c'est une bonne chose qu'on avance dessus, mais il faudra, je pense, au moment opportun, expliquer à l'administré les compétences de chaque identité administrative, pour qu'ils sachent vers qui se tourner en cas de problème, puisque avec la multiplication des institutions, que ce soit la communauté d'agglo, le pays, la ville, le conseil général, je peux comprendre que certains soient un peu perdus à un moment donné. Donc il faudra, je pense, l'expliquer. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure sur la pédagogie. On manque de pédagogie en France, on n'explique pas les choses, on les vote. Le législateur, systématiquement, veut apporter des lois, veut légiférer, mais il faut à un moment donné savoir expliquer aussi qu'est-ce qu'on vote et qu'est-ce qu'on fait en France.
Alors le dernier point sur la réforme.
Est-ce que je peux juste vous montrer
Oui, mais
ça c'est le Scott.
Vous savez que nous n'avons pas encore la caméra pour les.
Vous allez comprendre. Pourquoi vous compreniez plus vite, monsieur?
Voilà. Je vais essayer d'expliquer.
Parce qu'il existe les Scott, parce que il y a l'intercommunalité, il y a les communes, et il y a le Scott aussi. Si je parle de ça ce soir, tout le monde me dit mais Cyril est fou, qu'est-ce qu'il vient nous parler encore? Ça fait encore un truc de plus. Sauf que, voyez.
Schéma
de cohérence d'organisation
territoriale.
Mais voyez, pour dire que c'est compliqué, là, quand on regarde, là, il y a une verrue qui va jusqu'à les sacs, alors que Flavin, qui est à côté, Agenda d'Aveyron, etc., ils n'y sont pas, là, ils n'ont pas voulu y rentrer.
Ce que vous nous montrez, c'est le Scott de Rodez.
Oui, du centre.
Scott centre.
Mais parce que le Lévezou, il vient jusqu'à Flavin, ils veulent rester sur le Lévezou. Vous m'expliquerez, vous. Voilà, je vous laisse la parole. C'est moi qui vais mener le débat maintenant.
Alors, on va venir sur le dernier point, qui est la réforme de l'élection municipale. Si j'ai bien compris, l'essentiel consisterait, au lieu de se limiter à 3500 habitants pour avoir un scrutin de liste, d'aller jusqu'à, vous venez de me dire, 500 habitants. Est-ce que là, vous considérez tous que c'est un progrès? Est-ce que, quand on avait introduit le 3500, je me souviens qu'il y avait certains maires extrêmement importants, vous savez, ces gens qui sont à la fois... président, parlementaire, enfin
bon,
qui s'était beaucoup inquiété qu'on ne s'arrête pas à 5000. Hein. Après, je vous dirai de qui il s'agissait. Alors, est-ce que vous, ça vous, monsieur Gros, puisque vous voulez prendre la parole, prenez-la, sur ce scrutin de liste arrêté à 500 habitants?
Bah, normalement, c'est plus facile, c'est plus clair. Il se passe simplement qu'il faut, vous devez dire, c'est pour ça que je fais signe, qu'il y aura deux conseillers municipaux en moins. On va passer de 9 à 7 sur les petites communes. Bon, ça change pas grand-chose. Simplement,
il finira par y en avoir autant que d'habitants permanents.
dans certaines communes, c'est possible. Dans les petites communes, c'est pas très compliqué parce qu'en général, il n'y a qu'une seule liste. Donc les gens s'arrangent entre eux. Bon, c'est pas ça qui va changer fondamentalement. Pour des villes, des bourgs moyens, ça peut être plus intéressant, effectivement. Quant aux grosses communes,
ça change pas.
Je pense que de façon pratique, peut-être que le seuil de 500 est peut-être un peu faible. Hein. On sait que c'est pas toujours évident pour les gens de se mobiliser, mais dans un cadre de liste où on ne pourra plus panacher et donc des listes complètes à présenter. Bon, c'est peut-être compliqué dans les petits ensembles.
Travail mais... la veille au soir. Ah,
ça va simplifier les choses. Moi, je trouve que c'est bien. Oui, c'est plutôt un progrès.
Les assassinats qu'il y avait la veille des élections. Les assassinats d'individus, c'est un peu vache, je trouvais. Bon, parce que
ou le charme d'être élu sans avoir été candidat.
Je veux bien cause. Le mec, il se présente, et il fait du truc pendant 6 ans, et je te le cartonne là, je me fais plaisir, je te le raye. La dernière fois, les sacs, enfin, il s'est pas. Le mec, il s'est retrouvé maire, il voulait pas l'être.
C'est quand même l'animation locale qui fait le plus recette. Résultat des municipales.
Oui, mais on peut avoir des élections quand même en protégeant les individus.
Certains faisaient l'objet de. Oui, c'était plus de règlement de compte que de véritables choix démocratiques. Ouais. Après, donc moi, je trouve que c'est une bonne chose.
Pour la parité, c'est bien,
ce que j'allais dire. Et pour la parité, parce que là encore, ce sera un scrutin paritaire. Donc, c'est une bonne chose sur le plan de la parité. Et puis, effectivement, je crois qu'en termes de démocratie, et puis je pense aussi même que pour la liste qui sera aussi élue, il y aura de vraies majorités qui se dégageront et ce sera peut-être plus facile aussi de mener certains projets dans ces communes.
Ce mandat, il y a eu quelques péripéties sur l'Aveyron, il y a eu 4 ou 5 ou 6, celle qu'on connaît, ou des conflits qui ont pu se résoudre le temps qu'on soit élu dans la grande joie, etc.
Donc j'ai cru comprendre que sur ce scrutin de liste pour les élections municipales, vous étiez tous d'accord pour constater que c'était un progrès, je ne vois pas de dénégation. Et c'est donc ainsi que se termine Table Ovale sans ellipse à Rodez. Table Ovale sans ellipse avec autour de moi Christian-Emmanuel Gros pour le Modem, Jean-Albert Bessière pour le Parti communiste français, Jean-François Théron pour l'Union des démocrates indépendants, Mehdi Smaïn pour l'Union pour un mouvement populaire, Sarah Vidal pour le Parti socialiste et Jean-Louis Roussel pour le Parti de gauche. Tout ça régulé par Claude Devezin. À dans un mois, ce sera à Villefranche.
Oui, bonsoir. Bon match.
C'est le sujet de son vote.